c'est le premier séminaire de l'URMIS cette année, en pleine période de rentrée, donc autour de l'ouvrage que Pascal Blanchard donc, a dirigé. Hein, alors, c'est un ouvrage collectif dont Pascal est l'un des co-auteurs. Alors, un certain nombre de collègues ici présents ont lu cet ouvrage, on l'a ici au labo, ont lu ou parcouru. On pourra, d'ailleurs, le but de cette séance est aussi une séance d'échange, hein, d'échange autour du projet de cet ouvrage, peut-être aussi de la manière dont vous avez travaillé, vous, en tant que maître d'œuvre, en sachant qu'il y a ensuite une soixantaine ou un peu plus, peut-être, de 90 contributeurs, et que peut-être on pourra aussi évoquer les conséquences de la publication et peut-être les polémiques qui ont pu avoir lieu ici dans le laboratoire, en sachant que Pascal, ensuite, interviendra pour un plus grand public à la bibliothèque Nucera, tout à l'heure à 16h30. Voilà, donc il faudra qu'on arrête au plus tard à 16h. Donc, Pascal est co-auteur avec Nicolas Bancel, avec Gilles Butch, qui est anthropologue, et avec Dominique Thomas, qui...
Et Christelle
Tarot, j'allais le dire, hein, bien sûr, elle est à la fin, parce qu'elle est à la fin dans l'ordre alphabétique. Hein, voilà, Christelle Tarot, donc, qui est historienne. Dominique Thomas, on va dire civilisationniste, hein, il est directeur du département de français à UCLA, Dominique Thomas. Gilles Butch, anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Nicolas Bancel, historien, professeur à l'Université de Lausanne. Et donc Pascal Blanchard, ici présent. « Sex, race et colonie » est un ouvrage qui a été publié il y a un an. Hein, il est sorti il y a un an, donc ce n'est pas un ouvrage qui est tout récemment publié. Pascal a déjà d'autres projets. Mais justement, depuis un an, cet ouvrage a quand même pas mal marqué... disons le milieu scientifique avec beaucoup d'importance et d'intérêt qu'on a eu pour cet ouvrage. Je rappelle simplement pour ceux qui sont peut-être moins connaisseurs de l'ouvrage que c'est un ouvrage qui donc est un beau livre, comme on dit, au sens de la manière dont il est confectionné, hein. Il a beaucoup d'images, c'est le but même des choses, mais des images qui sont de différentes natures, hein. Vous avez dans cet ouvrage des peintures, de la peinture, vous avez des illustrations diverses comme des gravures, vous avez des photographies, vous avez aussi des photographies d'objets, et l'ambition de cet ouvrage, c'est le sous-titre, hein, « La domination des corps ». Du 15e siècle à nos jours, donc 6 siècles d'histoire en quelque sorte, jusqu'à la question des décolonisations et du temps présent. Et l'ambition de ce travail est une ambition aussi mondiale. C'est-à-dire qu'on a souvent travaillé sur ces questions dans des espaces nationaux. Ici, on est dans un cadre mondial. Et il y a effectivement autour de ça la question des images et de l'utilisation des images. Donc, Pascal, on va te donner la parole et peut-être que tu peux déjà présenter le projet. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce projet si important ?
Bonjour à tous. Un projet, ça naît sur trois idées ou trois conjonctions. La première, c'est que ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur l'imaginaire colonial et les images. Et la toute première exposition qu'on avait faite, ce qui ne nous rajeunit pas, c'était en 93, elle s'appelait « Images et colonies ». Et quand on avait travaillé sur ce thème-là, Nicolas Bancel était déjà dans l'équipe, Sorène Lemaire, Yann Hollot, toute une génération de chercheurs, des jeunes chercheurs à l'époque. On était, pour la plupart d'entre nous, encore doctorants à l'époque. Quand on avait démarré ce programme vers 89-90 pour cette expo en 93, un colloque à la Bibliothèque nationale et un catalogue d'exposition, la question de la représentation des corps et de la sexualisation des corps nous avait énormément marqué dans cette expo. Nous n'avions ni la capacité d'analyser ce qu'on voyait, ni des corpus suffisants pour en mesurer toute l'ampleur. À l'époque, on n'était que sur la thématique française, de l'Empire colonial français, et on était relativement désarmés par rapport à nos formations respectives de chercheurs africanistes ou de chercheurs qui travaillaient sur le temps contemporain ou sur le 18e ou le 19e pour appréhender ces images en les replaçant dans un corpus qui avait été en fait encore à l'époque peu analysé. Si ce n'est par quelques-uns comme Saïd sur l'orientalisme et autres, mais qui n'était pas forcément un travail d'analyse quantitative, qualitative, comparatiste sur les images et sur la place de la sexualité des corps, dénudés ou non, dans l'imaginaire colonial. Les travaux commençaient à exister, fin des années 80, début des années 90, mais on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, la question soit premium et soit dominante. Nous, en tout cas, nous avions interpellé, on l'avait traité avec... des outils dialectiques et des outils d'analyse qui étaient assez légers de notre part parce qu'on n'avait pas cette formation. Et dans le même temps, d'ailleurs, on découvre aussi les images des os humains au même moment, dans ces corpus images sur images et colonies. Et là aussi, on est assez désarmé par rapport à la faiblesse de la connaissance de cette thématique et du sujet. Puis, on va égrener une vingtaine d'années autour de ces questions, sans pour autant, à un moment, se poser la question d'en faire un sujet en tant que tel. Et quand arrive l'idée d'appréhender la question en tant que sujet quantitatif et qualitatif et analytique, on pose deux jalons qui nous paraissent essentiels. N'analyser qu'un empire à l'aune de cette question-là, l'empire français, est insuffisant, parce que les images sortent du cadre géographique des empires. Une image belge peut très bien être diffusée en France, et une image produite par un photographe français à Dakar peut très bien être vendue aux États-Unis, et une image japonaise peut très bien être produite par un Hollandais en Birmanie et revendue par un imprimeur à Ceylan qui va lui-même être diffusée par un éditeur anglais de Londres. Donc la dimension monde était fondamentale. Deuxièmement, on se rend compte que la plupart des chercheurs qui travaillent sur cette question de la représentation, de la sexualisation, de la domination sexuelle, du rapport au corps, de la violence aux colonies, du métissage des couples, ont très peu travaillé sur les images. Ou quand ils ont vu des corpus, ce sont des corpus de 200, 300 documents, 3, 4, 5, 6 films. Mais la notion quantitative ou la notion répétitive ou la notion chronologique sur le temps long est rarement présente. En gros, très peu de chercheurs ont travaillé des conquistadors jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les deux constats qu'on fait. Et donc là, on se dit, on a une double problématique pour démarrer ce sujet. Un, il faut une équipe internationale capable d'appréhender dans tous les empires, dans toutes les aires géographiques. Et quand on dit tous les empires, ça implique l'Empire américain, ça implique l'Empire ottoman, ça implique les grands empires coloniaux belges, français, italiens, espagnols, portugais. Deuxièmement, ça implique de travailler sur le temps long. C'est-à-dire qu'il faut commencer, en fin de compte, à partir du moment où on a commencé à avoir des images du sujet. Ce qui fait notre borne chronologique, ce n'est pas le fait de coloniser, c'est le fait de montrer l'autre dans un rapport d'altérité où race et sexe commencent à fabriquer un type de regard spécifique. C'est ça que vous vous rendez compte que le Portugal, par exemple, bien avant la présence massive sur les côtes occidentales africaines, a déjà une production imagière sur le corps noir, dénudé, homme ou femme. Donc ça vous définit à peu près un champ géographique, un champ chronologique, un champ de chercheurs, donc vous partez à la recherche des équipes les plus larges possibles. Et puis ça implique quelque chose qui, pour nous, a nécessité 4 ans de travail, qui est de voir les images. Donc qui dit voir les images, ça veut dire constituer les corpus. Et qui dit constituer les corpus sur une vingtaine d'empires sur 6 siècles, ça oblige à une mécanique qui est très particulière sur l'image. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui choisissez les images que vous allez voir. C'est les images qui s'imposent à vous. Qu'est-ce qui existe? Ce qui représente, pour le travail qu'on a fait, à peu près 750, 760, 780 000 images. Parce que le fait de les voir a tout à fait changé l'équipe scientifique qu'on voulait mettre en place. Parce qu'on se heurte à un moment à des images qu'on ne connaît pas. On se heurte à des corpus qu'on ignore. On se heurte à des répétitions qu'on n'imagine pas. Si on m'avait dit au début du livre qu'on allait travailler sur l'image de la représentation de la femme noire ou amérindienne dans les atlas du XVIe siècle, je ne l'avais pas... Imaginer comme un chercheur spécialisé de cette question-là, d'aller chercher quelqu'un qui peut me parler de ça. Je n'avais pas imaginé que Storyville aux États-Unis, à New Orleans, était un sujet majeur, parce que je ne connaissais pas personnellement ce sujet-là. Je n'étais pas un spécialiste des femmes de réconfort de l'Empire japonais. Je ne connaissais pas les 15 premiers jours de l'arrivée des troupes américaines à Tokyo. Ces thèmes-là ne sont pas venus par une approche de chercheur spécialiste de ces questions, mais sont venus par la découverte de corpus images très particuliers. La première année, en gros, a été une année de corpus extrêmement classique qui fait en fait remonter ce qui est le plus facile à trouver, les musées. Et puis vous rentrez en année 2, en année 3, vers des corpus qui ne sont pas du tout classiques. Collectionneurs privés, collections spécifiques, aller chercher dans des grandes collections publiques des images particulières. Et ce qu'on n'avait pas du tout imaginé, c'est d'ouvrir totalement notre spectre d'analyse. C'est qu'à un moment, même les limites qu'on s'était données sur le type d'image qu'on considérait comme faisant partie de notre corpus sont totalement éclatées par ce qu'on peut trouver. C'est aussi bien de la peinture valorisante que dévalorisante. C'est aussi bien de la photo particulière, à partir du moment où elle a été diffusée, donc de privé, que de la photo mise en carte postale. C'est aussi bien des objets du quotidien que de la grande presse, de la littérature. C'est une adaptabilité aussi aux différents empires qui ne produisent pas le même type d'image. L'Amérique ne fabrique pas les mêmes images que le Japon. La censure au Japon n'a aucun rapport avec la censure à Londres. La manière de travailler des photographes français de l'Empire colonial français, qui vont grosso modo dominer le marché de l'image entre 1880 et 1930, n'a rien à voir après avec la génération de l'image massive des Américains à partir des années 25-30, qui vont complètement problématiser le genre. Et puis on va dans le contemporain. Aller dans le contemporain, s'intéresser aux artistes, s'intéresser à la publicité, s'intéresser à des sujets, à des supports comme le web. Si vous voulez à un moment avoir un discours intelligible, intelligent et subtil sur qu'est-ce que produit le web dans la culture porno aujourd'hui en héritage du temps colonial, Vous mettez un chercheur qui, pendant un an, voit à peu près 30 000 sites. C'est un sujet inévitable. Sinon, vous n'êtes que dans la généralité. Et vous n'êtes pas dans ce qui est montré, donc qu'est-ce qui est montré, et vous n'êtes pas dans ce qui est dit ou dans les pratiques. Car une image, c'est d'abord une pratique. Une image ne vaut pas une image. C'est pas vrai. Une image vue ne vaut pas une autre image vue. Qui la voit ? À combien elle est diffusée ? Où elle est diffusée ? Quel circuit de diffusion ? Quelle est l'historicité de cette image ? Quels sont les personnages représentés dessus ? Qui sont-ils ? Entre un amateur qui photographie une amateur, ou un amateur. Quand je dis amateur, c'est-à-dire qu'il n'est pas payé pour être dans une photo. Et quelqu'un qui pose dans une image, comme pour les photos Lénert et Landrock, par exemple à Tunis ou en Égypte, vous n'avez pas le même rapport à l'image. Entre quelqu'un qui a fait 200, 300, 400, 500 cartes postales, en jouant soit à la prostituée juive tunisienne, soit à l'orientale, soit à la mauresque au sein nu, soit à la femme de petite vertu, soit après à l'épouse, soit à la femme au puits, vous n'avez pas le même rapport que celle que vous trouvez qu'une seule fois en image et qui a pu être prise, par exemple, je pense à une photo de Fortier à Dakar, pour une séance, une pose, dont vous connaissez le nom parce que Fortier relevait tous les noms à des gens qu'il payait, mais elle n'a jamais fait profession de l'image. Et puis après, vous avez la peinture, puis vous découvrez que dans la peinture, il y a beaucoup de liens aussi avec l'image photographique aux cartes postales, où souvent des peintres n'ont jamais voyagé. Donc une image d'un peintre qui ne voyage pas dans un pays, ça n'a pas la même valeur, le même rapport que vous avez à cette image, d'une image d'un peintre qui a voyagé. Et puis vous arrivez dans des cultures que vous connaissez peu en termes d'empire. Moi, l'empire portugais, je n'étais pas du tout un spécialiste de la question. Les États-Unis, c'est particulier comme empire. Parce qu'il faut déjà appréhender la question que Hawaï, Porto Rico, les Philippines sont bien des colonies. Voire les colonies intérieures pour les Amérindiens, les Noirs ou les Asiatiques aux États-Unis. Et vous rentrez dans une culture maelstrom de l'image très particulière aux États-Unis puisque vous ne pouvez pas oublier le cinéma. Donc au-delà des images fixes, on a vu beaucoup de films. C'est à peu près 4000 films sur l'ensemble des sujets. Et là, vous composez votre équipe scientifique. On est 97 au total à avoir écrit dans ce livre. Et vous vous posez la question de comment vous faites écrire 97 auteurs. Ce qui est donc impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir 97 articles qui suivent, sinon le livre il fait 4000 pages. Donc vous vous posez la question du comment faire face au matériel, en sachant que vous ne pouvez pas vous permettre de dire « ce n'est pas grave de ne pas parler de tel sujet ». Puisque ce qui fait la transversalité, le panoramique du livre, c'est justement ne pas choisir un thème à l'aune d'un spécialiste, mais faire que la masse d'images trouvées devient l'objet d'un débat ou d'une analyse de spécialiste. Vous inversez le processus. J'ai une pile d'images, je veux la comprendre. Je veux la comprendre. Alors des fois, on a eu beaucoup de mal à trouver le spécialiste d'une question. Par exemple, nous n'avons pas trouvé un spécialiste sur l'Empire soviétique, et avant l'Empire russe, capable d'analyser les photographies exotiques de l'Empire russe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de spécialiste de cette question. Ça n'existe pas. Et nous, en tâtonnant, on était incompétents pour le faire. Donc là, je suis incapable d'arriver à le produire. Mais sur d'autres sujets, je pense au cinéma, sur l'immigration, qui on a appelé immédiatement, de réfléchir sur la présence, à un moment, et l'émergence des couples métis dans le cinéma, qu'est-ce que ça signifie et comment, quel processus. Sur chacun des sujets, le spécialiste a correspondu en fait à une thématique visuelle de stock d'images. Et tout de suite, on s'est dit, il y a deux approches possibles. Premièrement, l'approche, elle va être extrêmement techniciste. Je vais parler de la censure sur les cartes postales à Londres entre 1890 et 1910, parce que les cartes postales londoniennes ne travaillent pas l'image, en termes de production visuelle, de la même manière que les Français, non pas à l'aune des photographes qui pensent différemment le corps de l'autre, ou la manière de montrer l'exotisme, la pornographie ou l'érotisme, mais à l'aune d'une censure britannique qui fabrique un type d'image. Donc la question de la censure à Londres est fondamentale. Comme la question du côté pudibond des Britanniques en Inde vous permet de comprendre le type d'image qui est produit. Et de l'autre côté, parler des artistes en tant que tels, parler du profit de ces artistes, parler du quantitatif des productions sur les mauresques au sein nu, par exemple au Maghreb, vous oblige à prendre des gens capables d'avoir une autre approche en histoire de l'art, par exemple des images. Et puis à côté de ça, il faut des articles qui vont être capables d'embrasser des périodes ou d'embrasser des thématiques. Le thème orientaliste est un sujet qui traverse deux siècles d'histoire. Et là, vous n'allez pas chercher qu'un spécialiste de la carte postale. Vous réfléchissez à une équipe d'auteurs, toujours deux ou trois par article, qui ne se connaissent pas forcément, souvent en zone anglo-saxonne ou en zone lusophone ou en zone germanophone et française, pour avoir aussi des approches différentes entre les empires, et vous leur demandez ensemble d'écrire un article qui, lui, va être plus transversal, dans lequel vont s'intégrer des micro-approches. C'est comme ça qu'on a constitué, à partir de la quatrième année, l'architecture du livre. Nous avions les images, notre sélection dessus, donc on a commencé à travailler de 750 000 à 75 000 images, 75 000 images à 10 000 images, de 10 000 images à 1 365 images qui composent le livre aujourd'hui. Puis on a, à côté de ça, travaillé toute l'approche discursive en disant à certains auteurs, tu me fais un article de 2000 signes. Là, il vous répond, c'est impossible. Donc on a eu 97 fois, c'est impossible. D'avoir en 2000 signes l'essence d'une approche sur une thématique. Et puis les auteurs en transversal, qui avaient à peu près 30 000 signes, eux devaient arriver, ils sont 17 au total dans le livre, être capables d'arriver à amener comme ça 6 siècles de mutation à la fois de la domination sur les corps produite par les empires, donc les pratiques sexuelles aux colonies, qui est le premier angle d'approche de notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé aux colonies, si on veut être simple? Deuxième sujet de ces auteurs, quel est le lien, s'il y en a, avec la production visuelle dans ces empires? Et puis il y a un deuxième sujet, enfin un troisième sujet intrinsèque à la thématique. Il y a des images qui sont produites en Occident sur les empires, mais qui ne sont pas produites dans les empires, qui peuvent même être fabriquées à partir de personnages qui sont grimés et qui fabriquent l'autre, qui n'est même pas un autre, puisque c'est souvent un blanc ou une blanche qui est grimé en africain, en oriental ou en asiatique et qui joue à l'exotique dans les images qui sont produites. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que c'est un va-et-vient dans l'image qui produit quoi? Car n'oublions pas que ce ne sont pas des images qui sont fabriquées pour les gens dans les colonies. Ce sont des images qui sont fabriquées pour les Occidentaux qui ne vont pas aux colonies, pour la plupart du cas. Ou comme souvenir de ceux qui ont été aux colonies. Donc ces images, elles ont un style très particulier parce que dans certains cas, elles n'ont vécu une circulation qu'à l'intérieur de la métropole pour tenir un discours sur là-bas. Donc vous faites aussi appel à des gens qui sont capables de travailler sur pourquoi on fabrique une forme de fantasme sur l'ailleurs. Mais ce fantasme sur l'ailleurs, il raconte aussi une histoire, souvent invisible, de la violence sur les corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de photographie de viol. Ça n'existe pas. Celui qui va aux colonies ne photographie pas la violence. Celui qui va aux colonies photographie la possession. C'est un safari sexuel, ce que j'ai dit dans une interview avec Christelle Tarot aux Arocs. C'est le même logique qu'un safari. J'y vais pour capter, et je prouve que j'ai capté en faisant une photo de ma proie que j'envoie à mes proches. Ça, c'est la photo amateur aux colonies. Donc elle fait partie de notre corpus. Parce que bien souvent, elle participe du même imaginaire. Pourquoi? Parce que souvent, ces images photographiques de particuliers deviennent des cartes postales. Je rappelle que la carte postale, à l'époque, est à peu près l'équivalent aujourd'hui d'Instagram ou des tweets. Elles ne sont pas mises sous enveloppe. N'importe qui peut les voir. Une petite fille, un petit garçon de 8 ans peut récupérer la carte postale du postier, la donner à sa grand-mère et la mettre sur la cheminée. Ce ne sont pas des images cachées. Elles ne sont pas envoyées sous enveloppe. Elles sont vues par tout le monde. Donc une image diffusée, tolérée et acceptée par la censure, alors que vous n'avez pas la même censure pour les femmes blanches ou les hommes blancs dénudés, fabrique aussi un discours idéologique que tout le monde voit d'une culture populaire. Certaines séries, c'est 10 000, 20 000, 30 000 exemplaires d'une carte postale, là on comprend, mais des fois vous avez des séries simplement à 30, 40, 50 exemplaires. Donc ce qui devient essentiel à analyser, c'est le répétitif. Pourquoi au Maghreb, 12% des cartes postales traitent des mauresques au sein nu? Pourquoi c'est le premier sujet? Pas le deuxième, pas le troisième, le premier. Et sur 40 ans d'histoire. Et les cartes postales sont des fois rééditées pendant 40 ans, 30 ans. Parce qu'ils fabriquent un imaginaire où dans le décorum de l'Orient, la première invitation pour le colonial, c'est de dire « Ici, des femmes lascives vous attendent parce que leurs hommes sont incapables de les satisfaire. » Et c'est le cadeau du colonial. Cette construction-là, elle fonctionne dans la tête du colonisateur qui parle avant même de partir aux colonies, s'il est administrateur ou s'il est soldat. Ça fabrique une sorte d'imaginaire qui va être repris par les affiches militaires, par exemple, qui sera repris par la littérature, qui sera repris par la peinture. Et en même temps, on explique que c'est un monde dangereux. La race, il faut la protéger. C'est tout le paradoxe du sujet. Comment ceux qui prenaient la supériorité de la race peuvent arriver à accepter la liberté sexuelle et faire de ce qui sont pour les populations colonisées un enfer, un paradis sexuel pour les colonisateurs, alors que dans le même temps, il faut limiter le métissage et contrôler la race. C'est un paradoxe pendant tout le livre qu'on a essayé d'expliquer. C'est un paradoxe absolu. Et toutes les dualités dans tous les empires, en permanence, c'est comment je protège la race, comment je sauvegarde la race, comment j'autorise la liberté sexuelle dans des territoires où il n'y a pas de femme blanche. Et où la femme blanche, qui est devenue un sujet que nous n'avions pas du tout matricé au départ, majeur du livre. Je le disais quand on était avec Alain Mabankou à Blois, en faisant une présentation du livre, le personnage le plus représenté dans le livre, c'est les femmes blanches. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais c'est le sujet. Parce que la femme blanche, c'est la color line absolue aux colonies. Celui qui touche à la femme blanche, a touché à l'Occident et a touché à la pureté raciale, mérite la mort. Donc la femme blanche devient l'interdit absolu, et par définition, part du postulat que tous les hommes, voire quelques femmes dans certains sujets, aux colonies, rêvent de toucher à la femme blanche. Et là, les États-Unis ont été un sujet majeur dans notre thème, d'où la question du lynchage, d'où la question des violences sur le corps noir, d'où la question sur les interdits, sur l'eugénisme, sur la miscégénation, sur les interdictions de métissage. Parce que vous rentrez dans un sujet où là, la question de la race, deuxième mot présent sur le titre, est essentielle à comprendre. La matrice n'est pas simplement la sexualité, car la sexualité induit deux choses. Elle induit la proximité de populations d'altérités différentes, et dans le même temps, elle induit la potentialité du métissage. Donc elle induit un sujet à travers la sexualité qui est un sujet intimement idéologique qui fait partie du pouvoir colonial. Donc là, on s'est retrouvé là aussi à devoir appréhender quelque chose qui peut nous paraître aujourd'hui une évidence, mais qui n'était pas tant que ça pour nous au départ. C'est l'émergence progressive dans ces imaginaires et dans les pratiques sexuelles aux colonies de la présence des femmes blanches. En gros, pour résumer à peu près pour la plupart des empires, hollandais, anglais, français, allemands, lorsque la femme blanche arrive aux colonies, toutes les règles qui ne sont pas des règles, mais qui sont des tolérances, changent. À partir de ce moment-là, comme le dit très bien Christelle Tarot dans son article, l'État colonial prend en charge la prostitution. On fait sortir les jeunes filles des maisons pour les faire rentrer dans d'autres maisons. Et ça, c'est la présence de la femme blanche, qui ne peut tolérer la concurrence sexuelle sous son propre toit. Et là, vous commencez à comprendre un ordre du monde où la sexualité a été, sur le temps long, une matrice essentielle. Après, arrive ce que tout bon chercheur doit accepter comme idée qui est fondamentale, ne pas rentrer dans une logique où on est persuadé que chaque siècle, chaque époque, chaque empire, c'est la même matrice. Nous nous sommes donnés, et c'est pour ça que travailler d'abord à 5, puis après par sous-équipe dont le projet a été fondamental, nous n'étions pas tous les 5 d'accord sur ce que nous voulions écrire. Et c'est extrêmement sain. Parce que ça oblige à un débat incroyable sur ce qu'on découvre. Par exemple, nous n'aurions jamais imaginé que le premier chapitre se serait appelé « Fascination ». Parce que dans cette histoire, il y a aussi quelque chose qu'il faut mesurer. La sexualité, c'est aussi, par définition, quelque chose qui fonctionne à travers des ressorts que même le scientifique a du mal, forcément, que d'ailleurs les romanciers l'écrivent beaucoup mieux que nous, a du mal à définir d'une manière structurelle, d'une manière extrêmement mécanique. C'est plus complexe. Et la fascination des premiers explorateurs, ou des premiers colonisateurs, mais je dirais bien le mot explorateur parce que c'est fondamental, sur le corps des autres, a été une fascination d'altérité où les images ne sont pas au 15e, 16e, 17e siècle, même s'il y en a, des images négatives. C'est d'abord des corps qui fascinent. Ils fascinent par leur étrangeté, bien entendu. Il y a un rapport à l'altérité, aucun débat. Ce sont d'abord le corps des femmes qui fascinent, puisqu'on massacre les hommes. Et on considère que ces femmes, si vous regardez les manuels scolaires en Europe, jusqu'à peu près des années 80, et encore, il y en a encore quelques-uns qui continuent. Généralement, l'image emblématique de Christophe Colomb qui arrive en Amérique, c'est le cadeau et l'offrande des femmes par les Amérindiens. C'est d'une naturalité absolue. C'est normal d'arriver quelque part, bonjour, j'arrive chez vous, je récupère vos femmes, je reprends le bateau. Mais cette image, elle a traversé tous les siècles. Et elle est devenue presque une forme d'archétype. Et cet archétype, il est intéressant parce qu'il correspond aussi à un imaginaire que l'on a préfabriqué sur des mondes qui étaient totalement inconnus. Si vous prenez tous les atlas du 15e, 16e, voire les tout premiers qu'on peut trouver à la fin du 14e siècle, vous êtes dans des... Voilà. Vous êtes dans une logique où les corps sont naturellement dénudés. Dénuder un corps, c'est parler d'une autre culture. Le fait d'avoir les corps dénudés, c'est aussi d'arriver tout de suite à expliciter de quel continent vous parlez. Et dans presque 90% des atlas qui parlent de l'Amérique ou de l'Afrique, le personnage emblématique qui illustre ces atlas, c'est une femme nue, alors que l'Occident et l'Asie, c'est une femme habillée. Et ça, il n'y a pas forcément un rapport à la sexualité à travers le fait de dénuder un corps. Mais il y a un rapport à sentir que l'autre, la corporalité de l'autre, n'est pas la même. Et d'un seul coup, vous travaillez aussi sur la couleur de la peau. Vous travaillez aussi, même si les images sont en noir et blanc, mais vous travaillez sur des formes de la peau. Vous travaillez donc sur une forme d'esthétique qui a fabriqué quelque chose qui est très complexe, qu'on a résumé dans un article qu'a fait Gilles Budge, notamment sur les Amérindiens et les populations afro-américaines, qu'on pourrait appeler « fascination-répulsion ». C'est pour ça qu'un des articles que moi je trouve essentiel sur le sujet, je vais arriver à le trouver, voilà, c'est celui qui travaille sur l'émergence progressive dans des rapports interdits, quand même, de personnages exotiques. Alors vous l'avez d'abord dans tout l'imaginaire sur l'esclavage, où un des articles explique qu'une grande partie des images de gravures du 16e, 17e, et notamment du 18e siècle, sont clairement des gravures sadomasochistes, où on a l'impression que le corps noir qui est meurtri, est un corps noir qui s'inscrit dans une sexualité qui lui est presque offerte. Et quand vous regardez les images avec ce regard-là, je vous assure, vous changez complètement la manière d'appréhender l'imaginaire autant l'esclavage qui est montré. Ou, ce que vous voyez derrière moi, et là, dès le début du XVIIe, vous l'avez, et ça devient une omniprésence, petit à petit, des personnages qui vont émerger dans la peinture classique, mais qui ne vont jamais être des personnages qui vont mettre en péril le suprémacisme blanc. Qui vont être des images, de temps en temps, de femmes noires, très souvent de nains noirs ou d'enfants noirs, qui peuvent être donc des objets exotiques de cour aristocratique, mais à aucun moment des objets de dangerosité sexuelle pour les personnages qui sont mis en exergue. Là, l'exemple montre deux femmes, mais il y a tout autant d'exemples sur les hommes. Ça, c'est typiquement l'image dont je vous parlais tout à l'heure, de dire que les images ne sont pas forcément négatives, de domination, de suprémacisme. Là, quand on est tombé sur cette image de cette princesse de Zanzibar, avant d'arriver sur le deuxième point de l'analyse de l'image que je vais vous proposer, elle est fascinante parce que les deux personnages, d'abord, sont de même taille, ont le même espace dans la peinture, ont à peu près la même valorisation imagière. Aucun écrase l'autre. La seule différence qui place la frontière entre les deux, entre nature et culture, c'est les seins dénudés de la jeune femme noire, de Zanzibar. Mais il faut rentrer presque au deuxième, voire au troisième niveau de lecture de l'image pour voir cette distinction qui va, d'une certaine manière, arriver à fabriquer des humanités. Mais sur le fond, c'est une image intimement valorisante. Elle n'est pas du tout présentée comme étant infériorisée, habillée, le reste du corps, des bijoux. Elle a la même valorisation que le personnage blanc. Et ce type d'image nous ont amené à, en termes d'analyse, parce qu'elle se superpose à toutes les images de l'esclavage très classiques qui sont diffusées à l'Occident, à imaginer en gros que les trois premiers siècles ont fabriqué quelque chose qui est assez paradoxal en fait. Ils ont fabriqué du désir dans la violence. Deux termes qui ne vont pas ensemble. Ils ne vont pas du tout ensemble, mais ils correspondent parfaitement à ce qu'est l'espace colonial. C'est-à-dire que l'espace colonial induit que le désir de l'homme blanc ou de l'homme japonais colonisateur ou de l'homme américain, vous les appelez comme vous voulez en fonction des empires, est d'abord un droit naturel sur un objet exotique qui n'est pas vraiment un humain. J'ai essayé de résumer là en une phrase. En plusieurs temps, à peu près le ressenti de ce qu'est le droit et le pouvoir sur le corps de l'autre. Et en plus, ce pouvoir sur le corps de l'autre, il induit un réel pouvoir politique. Je m'explique. Le pouvoir politique, il n'est pas de pouvoir abuser, dominer, exploiter, violenter le corps des femmes. Il est d'humilier les hommes dont on peut exploiter le corps de leurs femmes. Ça, c'est du pouvoir politique. Le fait de pouvoir arriver dans un territoire comme l'Algérie, l'Inde, et le débat sur l'Inde après la révolte des Sipayes au milieu du XIXe siècle est extrêmement révélateur là-dessus, le fait de dire « je possède ta mère, ta sœur, ta femme », c'est de dénier aux populations colonisées le droit d'être chez eux, quelque part, les personnes légitimes pour pouvoir être avec les femmes de leur territoire. C'est l'inverse qui se passe. Le colonisateur se donne un droit et donc, quelque part, ce que beaucoup d'auteurs du livre démontrent, va à travers ça exercer un surpouvoir. Un pouvoir du fait de dire à l'autre « tu n'es rien et tu n'es surtout pas à la hauteur en tant qu'homme des femmes qui n'attendaient que le colonisateur pour libérer leur corps ». Toutes ces dialectiques, vous les retrouvez, y compris sur des choses qui sont très ambiguës. Là, vous avez affaire non pas à une peinture proposée en tant que telle, mais c'est le dos d'une peinture qu'un peintre en 1825 fait, alors que sur la première phase de cette peinture, il représente le maître de la plantation. Alors on n'a aucune idée de savoir si c'est un joke, un trait d'humour, un moment critique de ce peintre, qui va au dos du peintre, qui a fait payer certainement par le propriétaire de la plantation, mais on a l'impression qu'il raconte une autre histoire de l'ambiguïté de ce maître qui, d'une certaine manière, abuse, voire est amoureux de jeunes femmes noires et qui, en même temps, est capable de battre et de fouetter leur mari uniquement pour continuer à exploiter le corps de cette jeune femme noire. Je vous dis, on n'a aucune information sur cette peinture. Elle nous est arrivée par une collection américaine et on a mis du temps, ou les castas. Les castas qui n'existent pas du tout dans les empires britanniques et français. Pour nous, français, c'est un sujet... C'est toute la manière dont les Portugais racontent les différentes potentialités, possibilités de métissage de couples. Généralement, vous en avez, ça peut monter jusqu'à 26 couples possibles, donc de asiatiques avec amérindiens, amérindiens métis avec noirs, noirs métis avec blancs, blancs avec... Bon, je vous passe les détails. Et les castas racontent ça. Donc nous qui pensons que les mondes coloniaux ont été des mondes intimement segmentés et interdits, ou des mondes où le couple n'était pas représenté, quand vous arrivez sur l'Empire portugais, vous découvrez complètement autre chose. Parce que pour les Portugais, l'interdit sexuel n'allait pas jusqu'à l'impossibilité, au moins dans les premiers siècles, à ce que des couples puissent exister, y compris dans la bonne société bourgeoise. Et donc, on arrive même à des représentations qui vont fabriquer presque des éléments comportementaux, parce que vous voyez systématiquement qu'il y a des couples que l'on valorise et d'autres où on explique qu'ils seront dangereux et qu'ils se termineront mal. Parce que s'il y a bien des sujets qui est partagé par tout le monde, c'est le couple métis se termine toujours mal. Alors là, la littérature coloniale le reprendra, le cinéma colonial le reprendra, l'imaginaire le reprendra, en fabriquant quelque part une histoire qui ne peut que mal se terminer. Alors, ce que je disais tout à l'heure, cette image-là, elle est, je pense qu'on a... Vous l'avez, pour ceux qui ont vu le catalogue Le Modèle Noir ou l'exposition qui a eu lieu à Orsay, elle a été beaucoup utilisée aussi dans un catalogue qui vient de sortir dans un livre que deux de nos collègues viennent de faire, sur ce qui prouve que le sujet est devenu extrêmement prégnant actuellement sur l'image des Noirs au sens global dans la peinture occidentale. Donc cette image, elle est utilisée. C'est une image qui est incroyable en 1632. Parce que vous avez d'un côté un personnage qui est... où clairement on a affaire à une scène de viol, c'est tout à fait exceptionnel hein, dans la peinture. Hein. Je tiens à dire que des images de ce type-là, vous devez en avoir, on en a donc rencontré une quinzaine entre le 16e, 17e et 18e siècle, sur toutes les aires géographiques. Donc c'est très très rare. Une scène de viol, mais en même temps qui est ambiguë, puisque vous en avez un qui rit et un qui semble être choqué. Est-ce qu'il est choqué parce qu'il y a eu viol, ou est-ce qu'il est choqué pour le rapport interracial? Nous ne saurons jamais. Mais cette image est une des très rares images qui joue sur un paradoxe d'altérité et sur des corps, et qui fabrique, d'une certaine manière, bah, un ressenti, on est en 1632, juste qu'on l'imagine tous, un ressenti que, aussi, le couple est possible, le viol est possible, donc la sexualité est possible. Alors nous, on est aujourd'hui, avec nos paradigmes d'aujourd'hui, on trouve que c'est aberrant de se poser la question que la sexualité soit possible entre les populations dominantes et dominées. Mais attendez, là on est au XVIIe siècle. Au moment où on est en train, à peine, dans les balbutiements d'un discours savant sur la hiérarchie des races. Quelque part, cette image, elle est intimement paradoxale. Comme l'a dit Achille Mbembe, on l'a commenté ensemble à Saint-Malo. Achille dit, ça a dû être assez étonnant pour tous ces Blancs qui ont dû se dire à ce moment-là, tiens, une femme noire est un être humain. Car si vous faites l'amour ou que vous violentez quelqu'un, dans les deux cas de figure, vous le faites rentrer dans le domaine de l'humanité. Ce qui est intimement paradoxal. Je ne suis pas en train de me mettre à la place du peintre. Je suis là, cette fois-ci, en train de me mettre à la place de ceux qui ont vu cette image, qui fait qu'indirectement, vous franchissez une part d'humanité au même moment où la science est en train d'expliquer que ce sont des animaux. C'est le paradoxe de l'image que vous avez vue tout à l'heure, celle-là, de la Vénus à trente têtes. Sergi Bratman, qui arrive en Occident, à Londres et à Paris, entre 1810 et 1815, d'abord arrive comme un phénomène de foire, un corps que l'on va montrer et mettre en scène pour ses difformités. Et en même temps, on l'appelle la Vénus. La Vénus qui renvoie en Occident à une forme d'esthétique. Alors là, c'est paradoxal, puisque c'est la Vénus Hottentote, et qu'on veut démontrer que si toutes les femmes noires africaines ressemblent à la Vénus Hottentote, ouf, et en même temps. Pour ceux qui ont vu le film de Kechiche, qui a certes surdimensionné la question sexuelle par rapport à la question raciale dans son film, mais qui choisit cette trahison-là, on se rend bien compte qu'il y a aussi une ambiguïté sexuelle dans le regard des Occidentaux qui allaient voir la Vénus Hottentote, par rapport à tout le discours sur la sexualité des Vénus, et sur justement son sexe, cette fois-ci physique, qui sera même analysé par Cuvier. Le rapport sexualité, monstruosité, racialité est quelque chose qui va accompagner l'intégralité de nos périodes jusqu'à ce type d'image. Où là, nous ne sommes pas en train de fabriquer. Alors, on est entre le maître et l'esclave, le titre déjà en lui-même ne ment pas, il est très très clair. Et on nous fait. Alors bien sûr, il y a encore les corps dénudés, mais on nous fabrique une image pacifiée du couple. En plein espace colonial. Si vous voyez bien la date, on est en 1840, même s'il y a eu la première abolition, on est à la veille de la seconde abolition. Donc ce type d'image, dans cette période qu'on a appelée fascination, qui, pour nous, en gros, il n'y a pas de date butoir absolue, mais se termine dans l'ouvrage autour de 1830, où on rentre dans une autre dialectique. Donc ces images-là sont déjà des fins de queue de l'histoire, de queue de la comète de notre récit, parce qu'on rentre dans une autre terminologie avec l'arrivée des femmes blanches, avec le discours sur la race, avec la mise en place de nouveaux empires, l'Algérie, la modernisation de l'Empire des Indes, avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans les colonies, l'arrivée aussi de législation raciale, notamment dans l'Empire après britannique et puis allemand, et puis l'arrivée d'un autre type d'image qui vont totalement raconter une autre histoire, c'est la proximité, si elle amène à l'homme blanc un droit de dominer le corps de l'autre, la proximité amène un dangereux, une dangerosité. Voilà aussi un sujet qui est très peu présent dans l'iconographie française ou anglaise liée aux colonies. En gros, la captation de la femme blanche, vous l'avez dans la littérature populaire dans les années 1900-1920, mais ça représente epsilon de la production. Il y a quelques sujets. Alors, chez les Kanaks, ça c'est un des grands sujets. Ça, une jeune femme blanche qui va en Nouvelle-Calédonie, par définition, elle est captée par les Kanaks, elle est d'abord violée et après elle est mangée. Boum, l'histoire est simple, vous connaissez le scénario, toujours le même. Hein. Je veux dire, au moins, il n'y a pas beaucoup d'imagination dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique, elle a produit, par contre, beaucoup plus que les autres, toute une production littéraire et toute une production de récits réels, dans certains cas, avérés, de récits réels de personnes qui se sont fait capturer par les armes. Alors, en termes de peinture, c'est presque une école aux États-Unis au 19e. Et la dialectique est très très simple, c'est dans l'élevement de la femme blanche. En fait, l'Indien doit être maté, mis en réserve, combattu, non pas pour ce qu'il est, parce qu'on veut capter ses terres, mais il doit être maîtrisé parce qu'il est une bête sexuelle qui n'a qu'un seul rêve en tête, c'est de violenter la femme blanche. Et vous avez toute une construction de l'Amérique que nous ne mesurons pas. Parce que nous n'avons pas eu la même production au 19e siècle dans l'histoire impériale et coloniale française, ou anglaise, ou italienne, hein, mais qui, par le fait de la porosité, ce que j'expliquais tout à l'heure, et du passage d'empire à l'autre dans la culture, va fabriquer un discours sur la color line qui, en Amérique, va aboutir. 93% des lynchages aux États-Unis se terminent par la castration de l'homme lynché. D'accord ? Et généralement, dans 92% des histoires, c'est une histoire sexuelle qui est à la base du lynchage. Interdire à l'Amérindien, interdire aux Asiatiques. Je vous rappelle que les mariages avec les Asiatiques sont interdits aux États-Unis de la même manière qu'avec les Noirs et les Amérindiens, dans la plupart des États américains. Interdire à l'eau de toucher à la femme blanche, c'est construire un monde paradigmique qui va être clairement définir qui est qui fait quoi et qui a le droit de faire quoi. Et cette fabrication-là, elle vient de tout cet imaginaire qui va fabriquer de l'autre un danger sexuel. Nous, on le voit moins, même si on a hérité avec 14-18, c'est toute l'histoire de la sexualité débridée des tirailleurs sénégalais pendant la Grande Guerre. Hein. Ce sera beaucoup plus tardif en France ou en Angleterre, mais ça va fabriquer le même élément. Le même élément qui est de dire, si nous ne protégeons pas les femmes, nos femmes, le « nous » entre guillemets, bien entendu, vous l'avez compris, dans la dialectique coloniale, elles se feront capter. Mais ça part aussi d'un sentiment, cette image-là, mais comme les images, comme les images, je ne vais bien sûr pas la trouver, voilà, ce serait trop beau, je ne l'ai pas trouvé, donc on y verra tout à l'heure, comme les images inversées. Parce que le fait de dire, ils n'ont qu'une idée bestiale, c'est de violenter nos femmes, ça veut dire qu'il y a un danger de concurrence, et que l'homme blanc a peur. Il a peur que les femmes blanches soient elles aussi, fascinées par ces corps exotiques. Et donc, dans la dialectique des colonisateurs, l'arrivée de la femme blanche aux colonies, c'est aussi une concurrence qui se met à, quelque part, l'interpeller. Et si, d'un seul coup, le corps, entre guillemets, indigène, devenait fascinant pour les femmes blanches? D'où la législation qui se met en route, d'où les interdits sexuels dans la plupart des empires, d'où une image dialectique qui va raconter la dangerosité du corps de l'autre, maladie et autres. C'est pour ça que dans toute, qui connaît bien l'histoire de l'immigration des Maghrébins, par exemple en France, le discours sur les Maghrébins porteurs de syphilis, dangereux au terme de maladies sexuelles, va être quelque chose qui va totalement accompagner l'arrivée des premières vagues migratoires dans l'entre-deux-guerres et dans les années 50 des Maghrébins. Au nom d'une histoire qui remontait aux temps les plus anciens, il fallait trouver des artifices pour faire que le corps indigène ne soit pas fascinant pour les femmes blanches. Donc cette histoire, vous le voyez, elle nous renvoie à tout un imaginaire qui s'appuie systématiquement sur le temps long. Donc le fait d'avoir... Si vous travaillez sur la fascination de la femme blanche, par exemple, dans l'imaginaire exotique et érotique, vous prenez la plupart des images, j'en ai choisi une, le marché d'esclaves. Il y a le discours de hiérarchisation dans cette peinture de Jérôme, vous la voyez tout de suite, c'est que la plus belle des femmes qui peut être vendue, d'ailleurs la plus chère dans un marché d'esclaves, ça ne peut être qu'une blanche. Et en même temps, on raconte une histoire qui est réelle. Il y avait des esclaves blanches au Moyen-Orient. Hein. Mais, dans le fantasme du peintre, ça permet à la fois de traiter déjà de corps dénudés, et montrés, et mis en scène. Ça renvoie tout à fait à l'idée fantasmatique des harems qui devaient avoir une composition chromique extrêmement large des femmes qui pouvaient être pendant ces harems. Mais ça renvoie aussi à une image, celle-là, qui va construire l'arabe, le musulman, comme dangerosité pour les corps blancs. Et là, on est en 1861. Genre, on imagine très bien que le Front National pourrait parfaitement reprendre ça pour parler des banlieues aujourd'hui. Cette construction, elle fonctionne avec un imaginaire aussi. Et là, nous avons quitté... les corps noirs qui étaient présents sur les premières images pour arriver sur les corps des orientales. Ça, vous avez devant vous, pour différents empires, et là on est aussi bien avec des Nordins qu'avec des cartes postales de Léon Lévy, qui était le plus gros producteur de photographie fin 19e, ou en Égypte avec ce que vous voyez édité à Port Saïd. Le type d'image type des mauresques, alors ça va à peu près de Damas, le Caire, l'Égypte, la remontée vers la Libye en même temps jusqu'au Maroc, de l'imaginaire qui peut exister aussi bien d'ailleurs sur les populations musulmanes que juives, sur les jeunes femmes, sur ces territoires. Où la matrice centrale, ça va être des jeunes femmes lascives qui attendent, par définition, le colonisateur comme libérateur, mais qui font partie du décorum. C'est-à-dire qu'on veut fabriquer dans un pays musulman l'idée qu'en se promenant dans les rues du Caire ou d'Alger, il y a des femmes nues dans les rues. Ce qui est un paradoxe absolu. Enfin, pour le premier qui connaît l'islam, j'imagine bien en deux secondes que c'est inconcevable. Pourtant, cette idée fictionnelle va l'emporter totalement sur le réel. Au point que vous aurez des peintres qui peindront ces pays en montrant des femmes au sein des nudés, qu'ils n'ont jamais rencontrées. Mais l'image va devenir tellement premium, tellement dominante, qu'elle va devenir un des éléments récurrents de l'exotisme. Là, on reprend Saïd, qui avait travaillé dessus, sans forcément travailler sur du quantitatif. Mais là, alors là je ne sais pas, je ne sais même pas le chiffre qu'on a pu voir, mais c'est impressionnant de se rendre compte en quoi, cette matrice-là, pourquoi elle marchait. Parce que la plupart des gens qui achetaient des cartes postales, ils préféraient celle-là aux autres. N'oublions pas qu'un marché de cartes postales, c'est, s'il n'y a pas d'acheteur sur un sujet, le sujet disparaît. Hein. C'est comme tout capitalisme, c'est l'offre et la demande qui prime. Hein. Là, on ne se fait pas des cartes postales pour se faire plaisir. Hein. On peut se faire des photos pour se faire plaisir. On peut faire des tableaux pour se faire plaisir, mais la carte postale, elle est rarement rééditée quand personne ne l'a achetée. Bousbier, on va y venir. En même temps, on est sans... Alors, on pense qu'il n'y a pas eu de la culture du porno image tôt. Alors, je vous arrête tout de suite. Nous, je pense que les premières images, dès que la photo était née, on a inventé le porno. Et dès que le porno est né, on a inventé le porno interethnique. Hein. Alors, là, c'est clair. En même temps, ça, c'est des images qui ne sont pas du tout fabriquées là-bas. Ce sont des images que vous fabriquez totalement dans les studios de Londres, de Paris, de Vienne, qui peuvent être fabriquées aussi d'Istanbul, hein, mais qui ont une production. Vous le voyez bien d'ailleurs, vous avez affaire à un pur studio. Nous ne sommes pas du tout dans une construction avec un paysage réel derrière. Et ces images homosexuelles sortent quasi au même moment que les images hétérosexuelles, interraciales ou non d'ailleurs. Ça correspond à une demande du public. Alors je ne vais pas dire que chaque segment, on peut le mesurer aujourd'hui de manière extrêmement précise, mais... On sait à peu près que la carte postale ou les images photographiques homosexuelles représentent 3-4% de la production de l'époque. Et donc, ils circulent, bien entendu, sous le manteau. Celle-là n'a pas le droit d'être vendue de manière grand public, d'être envoyée par la poste. Par contre, les images d'avant, celles-là, elles arrivent avec le timbre posé dessus, avec le commentaire écrit dessus, hein, des deux côtés, d'ailleurs, très souvent. Et puis, ce type de dessin, qui va, dont je parlais tout à l'heure sur l'idée que le corps de l'autre est un corps dangereux, là, on est à la même époque que les cartes postales que vous venez de voir. C'est l'assiette au beurre que certains d'entre vous connaissent, qui était un journal anticolonialisme extrêmement virulent, avec des dessins de Grandjouan. D'ailleurs, Grandjouan, le premier, utilisait cette phrase sur une couverture de l'assiette au beurre, l'Algérie aux Algériens en 1904. Donc c'est un dessin assez mythique et qui, pareil, joue, et quelque part à sa manière, tout en dénonçant la violence coloniale, reprend une idée qui est devenue une idée matrice. Le corps de l'autre indigène ne peut être qu'un corps malade. En parlant de la civilisation pour jouer avec civilisation, vous l'avez bien compris. Les Américains ont un dialectique que nous, on a des fois du mal à comprendre, de l'omniprésence de la question du métissage. Très tôt, les Américains vont interdire d'ailleurs la prostitution sur le sol de l'Amérique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prostitution. C'est l'officialisation et l'autorisation de la prostitution aux États-Unis. Je ne parle même pas de la prostitution interethnique, qui est censée, par les lois de Jim Crow, être totalement interdite. C'est là que, je le disais tout à l'heure, je ne connaissais pas la question de Storyville, un sujet que j'ignorais complètement. Et Storyville est donc un des quartiers de la New Orleans où il y avait des maisons closes. C'est le quartier où est né le jazz, en grande partie. Et dans ce quartier où il y avait des maisons closes, il y avait même des blue books où vous aviez les jeunes filles de chacune des maisons qui étaient rééditées tous les ans. Et sur ces blue books, vous avez des initiales. Et ces initiales, c'est la catégorie raciale des jeunes filles. Et les petits blancs, dans une sorte de very bad trip un siècle avant le film, partaient en virée exotique, là-bas. C'était le quartier, en fait, où on s'autorisait de sortir des lois Jim Crow et des interdits raciaux. Il pouvait y avoir des métisses, il pouvait y avoir des jeunes femmes qu'on prétendait comme descendantes des premières françaises métissées, ces très jolies jeunes femmes, comme le genre de la mythologie de Louisiane. Il pouvait y avoir des Marseillaises, qui étaient vendues extrêmement cher sur le marché, pour arriver en termes de prostitution à faire rêver sur l'Occident. Et puis il y avait des Amérindiennes, il y avait des Noirs. Et dans chaque maison, le public avec le Blue Book venait dans une sorte de voyage sexuel de l'interdit absolu. Parce que là, on, d'une certaine manière, comme pour Bousbir, tu l'as vu d'ailleurs la photo de Bousbir, je ne sais plus où elle était. Page... Voilà. Les Français vont reprendre exactement le modèle à Bousbir. Bousbir, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent Casablanca, vous êtes à 20 km du cœur de la ville, une ligne de bus va être créée. On va créer un quartier sur 17 hectares, fermé, qui va être le plus grand bordel du Maghreb. Rentreront entre 3 et 4 millions de clients par an. 900 filles en moyenne. Il n'a été démoli que jour des indépendances en 1956 au Maroc. Vous avez des tas de séries de photographies, comme vous voyez la série sur votre droite, où militaires comme civils partaient en virée, comme on disait à l'époque. C'est un peu entre le bordel du militaire de campagne et la ville sexuelle. Et la ville avait des cinémas, des bars, des bordels. et était devenu, pour Casablanca, et qui reste dans la mythologie aujourd'hui de Casablanca. Quand vous parlez de Casablanca dans tout le monde arabe, c'est considéré comme la ville de la prostitution. Il y a une sorte de mythologie qui s'est inscrite, et donc qui correspond à ce type de quartier, et qui correspond aussi, je reviens sur cette image-là avant, à tout un imaginaire dont il faut avoir les codes pour arriver à les... Quand vous voyez cette photo-là sur la première approche, vous la prenez entre une photo à caractère touristique, comme si c'était un lieu... Regardez la phrase. Vue aérienne du quartier réservé de Bousbir. On ne vous a pas écrit plus grand bordel du Moyen-Orient, hein, ou du Maghreb. Ah, t'as quand même les médaillons, on est entièrement d'accord. Mais on n'est pas loin d'un tourisme sexuel autorisé. Nous venons d'inventer le tourisme sexuel tel qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant de travailler sur le temps long, parce que cette image dont je parlais tout à l'heure, bon alors pour nous, les trois personnages qui sont derrière, vous êtes comme moi, vous ne les connaissez pas. En fait, ce sont les trois théoriciens principaux aux États-Unis à la fin du XIXe siècle de la miscellanéisation. L'interdit par la loi de tout contact sexuel entre hommes noirs, femmes blanches, femmes noires, hommes blancs. Pourquoi ? Parce que ça part du principe que tout Américain qui possède une goutte de sang noir est d'abord un noir et que l'Amérique va perdre son âme, va perdre son identité, va perdre sa race si on ne contrôle pas l'imaginaire. Et donc cette image, elle est intéressante parce qu'elle joue sur une image qui peut sembler positive de couple, avec une interracialité incroyable, puisque vous avez la version des deux couples, donc presque une forme de normalisation bourgeoise d'une sexualité interraciale, mais avec le message qui dit derrière « ne vous trompez pas, faites attention, ne soyez pas piégés par ce genre d'image », où vous avez les trois portraits des trois personnages qui ont porté ce discours qui amènera aux lois Jim Crow sur les interdictions raciales en expliquant que c'est la fin de l'Amérique si l'Amérique n'est pas vigilante que ce sentiment. Voilà typiquement une image, et je l'ai prise non pas pour ce qu'elle montre, même si j'ai expliqué ce qu'elle montre, mais quand elle est arrivée, c'est issu d'un collectionneur privé qui avait à peu près 4000 documents sur le sujet. La dernière année, on a rencontré beaucoup de collectionneurs privés. Et très honnêtement, c'est là que notre spectre en termes d'image a totalement explosé. Parce que ce qu'avaient conservé les privés n'était pas du tout conservé dans les institutions publiques et n'était pas du tout conservé dans les musées, dans les collections classiques. Et les privés n'arrivaient pas avec 3-4 photos. Hein. Ils collectionnaient, comme leurs prédécesseurs avaient dû collectionner, comme leurs prédécesseurs de prédécesseurs avaient dû collectionner, cette thématique-là comme une thématique qui fait partie d'un nombre de sujets. Quand même. Et un de ces collectionneurs arrive avec cette image. Quand vous la regardez comme ça, au départ, vous avez un peu de mal à comprendre... La structuration, vous comprenez deux choses à peu près qui sont claires. Il y a des jeunes femmes nues qui attendent. L'image semble extrêmement posée. Comme si vous aviez affaire à quelque chose qui a été construit en termes d'image. Et vous avez une jeune femme qui est étendue sur une sorte de sofa. Basiquement, vous comprenez, et il n'y a que des jeunes femmes avec quelques hommes simplement sur l'image, ce sont des femmes. Et en fait, c'est au dos de la carte postale qui est expliqué le récit. Parce qu'elle correspond aussi à toute une série que deux photographes italiens ont réalisé, dont vous avez les noms dessus. C'est le marché aux prostituées en Italie où venaient les officiers militaires italiens pour remplir les bordels destinés à l'armée italienne pour tout le territoire de l'Érythrée. Il y avait un marché, on a cherché les plus jeunes filles de toute l'Érythrée. Elles étaient rassemblées sur un marché et les militaires italiens venaient faire leur commerce pour remplir les bordels militaires de l'Érythrée. Ce qui est incroyable, c'est que ce genre d'images sont très rares parce que là, elles montrent quelque chose qui normalement n'est pas à montrer. Elle montre l'envers du décor de la sexualité dite exotique et libre. Elle montre que c'est un business et une industrie. En temps normal, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas parce que, comme je disais au début de la conférence, vous n'avez pas de photographie de viol. Vous n'avez pas, à part quelques-unes au moment des indépendances. Et c'est extrêmement rare. On en verra tout à l'heure. Vous voyez donc, le monde qui se construit à travers ces imaginaires vient nous raconter des choses que la première réaction aux images ne produit pas. Ça, c'est une des images qui a le plus provoqué au moment où le livre est sorti et qui a déclenché, parmi une quinzaine d'autres, le plus de réactions sur « Faut-il montrer les images ?» Le débat a été, pour nous, à accompagner dans deux registres la question de « qu'est-ce qu'on peut montrer ?» Quand on travaille sur les images, c'est une question basique qu'il faut savoir se poser. Alors déjà, vous avez une première réponse, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi autorise ou pas ? Car il ne faut pas croire que tout ce qu'on met dans un livre comme ça ne fait pas une question juridique. Celui qui a le mieux gagné sa vie sur ce livre, c'est l'avocat. Ah oui, bah oui, vous avez une vraie question. En gros, je vais essayer d'être assez simple parce que...
Juste une question, il y a des images que vous avez choisi de ne pas montrer.
Ah non, mais c'est pas qu'on n'a pas choisi, l'avocat nous a interdit de les présenter. Sinon, nous allions en prison. L'éditeur allait en prison et nous allions en prison. C'est très très simple. En Europe, il y a un type d'images qui sont prohibées, interdites, qui pourraient faire que je vais au pénal, que mon éditeur va au pénal, c'est la pédophilie. Voilà. Alors, définir ce qu'est une image pédophile du XVIIIe siècle, même les avocats ne sont pas d'accord entre eux, hein, et personne n'est d'accord entre eux. Parce qu'une image de tirailleur, je vais vous en montrer une, vous pourriez considérer que sur certaines images, là, vous voyez de petits marraines de guerre avec son tirailleur sénégalais, vous en avez certaines où c'est des jeunes filles, par exemple. Bien, si vous mettez une jeune fille en dessin avec un tirailleur sénégalais, interpréter l'image comme une image pédophile, il faudra quand même se lever de bonne heure. Donc, pour que l'image soit considérée comme pédophile, il faut qu'elle ait vraiment un rapport compliqué. Ou que la jeune fille soit considérée comme très jeune et pubère. Ce qui, là aussi, est intimement compliqué, parce qu'il va falloir interpréter une image dont on n'a pas forcément les éléments. Là, on n'a pas pris de risque, pour d'autres qui étaient très très simples, c'est que la règle écrite n'existant pas, nous sommes partis du maximalisme. Toute image qui pouvait faire un débat juridique sur la notion pédophile a été supprimée. 6% des images. C'est énorme, hein ? Enfin, je vous parle de corpus qui sont titanesques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite sur la notion de l'âge des jeunes filles. 11 ans, 12 ans, 13 ans, vous avez tout. Et surtout les empires. Hein. Je vous rassure, il n'y a pas une limite, il n'y a pas une typologie, il n'y a pas un empire plus qu'un autre. Pourquoi ? Parce que ce qui, nous, aujourd'hui... Alors, je rappelle le buzz que ça a fait quand j'ai fait une émission là-dessus, parce que j'ai fait un débat. Il n'y a que nous qui avons du mal à considérer que Gauguin est un pédophile, quand même. Hein. Si vous racontez l'histoire n'importe où de Gauguin... Il couche avec des jeunes filles de 11-12 ans, il est atteint de 11 maladies ménériennes, il écrit à ses copains qu'il peut tout leur faire, il a une totale liberté et on continue à considérer que c'est un grand peintre. Oui, c'est un grand peintre, pédophile. Gauguin est un pédophile, pour leur apprendre tout ce que... Et là, on a les traces, on a les sources, on a les lettres, on a tout. Hein. Il ne manque rien. Toute l'histoire de Gauguin est connue. Et quand d'ailleurs le film sera fait, je vous rappelle, le biopic, il y a un an et demi, l'affiche même est ambiguë parce que vous voyez Gauguin au milieu de plein d'enfants. Comme quoi, les producteurs ne sont pas toujours les plus fins pour arriver à faire des choses. Mais là, on est sur un sujet qui est complexe, parce que la loi française sur la pédophilie était extrêmement claire à l'époque. Elle s'appliquait d'ailleurs tout autant dans les territoires de l'Empire colonial français qu'en France. Mais dans l'imaginaire colonial, ce qui se fait là-bas n'est pas vraiment la même chose de ce qui peut se faire ici. D'accord, donc la pédophilie, c'est comme élastique, ça peut s'étendre. Hein. Et ça, ça renvoie à quelque chose qui est très complexe, que nous, on a dû mesurer en tant que chercheurs par rapport au choix dans le livre. Qu'est-ce qu'on définissait comme une image pédophile ? Je ne sais pas. Donc on a poussé le curseur assez haut et on a considéré à un moment qu'en termes de censure, au-delà même de ce que disait l'avocat, certaines images ne pourraient pas figurer dans le livre. Aux États-Unis, je n'ai aucun problème sur la pédophilie. Le livre est en train de se préparer pour les États-Unis actuellement. Hein. Aucun. Ce n'est pas pour autant qu'on va en mettre dedans. Nous considérons que notre... Alors, aux États-Unis, je peux montrer ce que je veux. Hein. Je vais vous dire après ce qui est interdit aux États-Unis. Hein. J'ai 120 images du livre que je ne peux pas faire aux États-Unis. Qui pour vous, vous n'allez même pas savoir ce qu'il y a de choquant dedans. Vous verrez ici bien les peintures. Aux États-Unis, vous pouvez avoir une image pédophile, vous n'allez pas au pénal. Par contre, aucune image de pénétration, aucune image de fellation, aucune image de sexe d'homme et de femme côte à côte. OK ? Là, j'ai 11 États où je vais directement en prison. Et mon éditeur aussi. Vous voyez que, alors, au Japon, je vous passe les détails, on est à peine en train de comprendre ce qui est interdit. Et ça fait un an qu'on bosse dessus. Donc c'est un enfer. C'est-à-dire que chaque culture a aussi un rapport qui est très complexe à ce qu'il va considérer comme étant des tabous sexuels de sa propre société. Donc nous, chercheurs, nous devons tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parlé de ces sujets dans le livre. Hein. Mais nous n'avons pas pu mettre les images. Et cette image-là est typiquement une image qui déclenche quelque chose en termes de réaction où je dirais que certaines personnes m'ont dit « Vous n'auriez pas dû la montrer. » Alors, on pourrait avoir un débat sur l'âge des jeunes filles, d'autres pourraient avoir un débat sur la violence de l'image, d'autres pourraient avoir un débat sur l'humiliation provoquant de cette image. D'autres me disent quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la notion de photographie par rapport à cette image-là, on ne viendrait pas avoir le même rapport ou une image de dessin comme celle-là, ou les images que vous avez vues comme celle-là ne va pas déclencher le sentiment du réel, de quelqu'un qui existe, de quelqu'un qui a une identité, de quelqu'un qui a été violenté, donc d'un récit qui a construit une préhistoire à cette histoire de l'image, parce que c'est du dessin. Alors que cette histoire-là, dans cette image-là, elle amène une violence immédiate, elle amène une proximité, elle amène un sentiment de quelque chose qui est réel, inacceptable, violent, et donc je me sens concerné en tant que femme, ou je me sens concerné en tant que afro-française, afro-américaine, africaine, par rapport à ce type d'image qui m'interpelle en tant que ma personne et que je trouve choquante. Et donc je me pose la question du droit ou non de la montrer. Et c'est là où nous avons eu des débats polémiques dessus, parce que si je peux, à cause de la loi sur la pédophilie, entendre le débat, à un moment, en tant que chercheur, je ne fais pas des sciences morales. Je fais des sciences humaines. C'est compliqué, hein, je ne sais pas si j'ai raison. Alors là, maintenant, je rentre dans Il faut cater notre questionnement. Et je le redis, nous n'étions pas tous les cinq d'accord sur tout. C'est-à-dire que des fois, nous avions des discussions qui étaient très complexes. Sur une image comme ça, entre Christelle Tarot, Nicolas Bancel, Dominique Thomas ou Gilles Bosch, nos approches ne sont pas les mêmes dessus. On pourrait dire, OK, il y a une majorité de mecs, ça n'aide pas, tout ce que vous voulez. Mais après, je vous rappelle que chacun des auteurs a eu des débats sur ces images. Et c'était très compliqué aussi. Mais en même temps, comment voulez-vous expliquer que ces images sont une fabrication de l'Occident si vous ne vous montrez pas la fabrication ? Christiane Taubira a dit une phrase dans une tribune qu'elle a faite pour Le Monde, que j'ai trouvé très fort. Si ces images vous choquent, c'est le bon début pour commencer à comprendre que ce qui est choquant, c'est ce qui s'est fait, et non pas ce qu'on voit. Parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal. À l'époque, à part, je vous ai expliqué, les viols et quelques violences, et les violences, je veux dire, brutales, et encore, il y en a quelques-unes, globalement, tout est montré. Et ça permet d'arriver à construire un récit qui est assez incroyable. C'est, en fait, c'est un récit qui est de l'ordre du visible. Là, vous avez les souvenirs témoins du gars qui va, des deux gars en goguette à la Havane, comme à côté des ce qu'on appelait les hula girls. Alors les hula girls, c'était ces jeunes filles qui, pour la plupart, n'étaient pas hawaïennes, venaient des États-Unis, de Californie, qui se déguisaient en hawaïennes et qui faisaient la photo à $1 avec le GI américain qui partait à la mort. Hawaï, 7,5 millions de soldats américains sont passés. En moyenne, 35 000 prostituées sur l'île. Le dernier grand bordel américain officiel, puisque à Hawaï, exception d'État, la prostitution ne sera interdite qu'en 1944. Dans le reste du pays, 1917. Là aussi, voilà un sujet dont nous, nous ignorions tout. Là, deuxième type d'image qui a fait question. Alors, le pincement de sein de l'homme aux colonies sur une jeune femme, ça a dû occuper 300 heures de nos conversations parce que c'est des dizaines de milliers d'images. Et c'est très étonnant parce que quand vous commencez à travailler avec des collègues américains, ils n'ont pas du tout la même analyse que des collègues occidentaux ou des collègues japonais. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que pourquoi autant d'hommes, et alors je peux vous dire que des photos comme ça, j'en ai mis alors des dizaines de milliers. Photos amateurs, quelques-unes en photo aussi carte postale, beaucoup en dessin caricature. Chez les Américains, je vous pose la question telle que nos réflexions, c'est tout ce fantasme de la maternité, du sein qu'on ne voit pas sur les plages, que les seins sont interdits, ne pouvons pas avoir de jeunes femmes qui se faisaient bronzer sur les seins aux États-Unis, et la mythologie des seins renvoie beaucoup plus à un aspect de la féminité que le sexe. Alors que les photographies dans les bordels de campagne des Français, c'est le sexe des femmes qui est montré, pas les seins. Deuxièmement, sujet qui, moi, m'a étonné, mais qui est dans la dialectique, c'est qu'on a là affaire à quelque chose qui est le trait commun de la photo amateur que vous envoyez aux copains. C'est entre sexualité et mauvais humour graveleux. Et le mauvais humour graveleux ne s'explique qu'à travers le mauvais humour graveleux. Le message basique, il est de dire « j'ai tout pouvoir ». Pincer un sein, c'est l'absolu du pouvoir sur le corps de la femme. Et puis, troisièmement, on a affaire à quelque chose qui correspond, et ça, c'est très intéressant à analyser, je vous renvoie à celle-là, ça n'existe pas dans la peinture. Ça n'existe pas au 18e ou 19e. Ça n'existe que parce que la photo existe. Ça correspond au format photographique de l'instant photographique. Il correspond à un instant, dans l'instantané, où si je demande à quelqu'un qui a un appareil photo, ce qui n'est pas non plus le cas de partout, dans les territoires coloniaux, je tiens juste à le dire dans les années 20-30 par exemple, parce que ce genre de photos existe vers 1910-1920, c'est la photo immédiate que vous faites rapidement pour montrer que vous avez conquis votre proie. Et là, vous rentrez dans quelque chose qui va renvoyer après, qui va être après dilué dans la littérature. Vous voyez les photos que vous voyez tout à l'heure sur les Amérindiennes qui se rediffusent. L'image de droite que vous voyez italienne, elle est fantastique. Celle-là, quand elle est arrivée, donc il se compare à des images des Sparsi Aventures américaines, qui alors les grands magazines des années 30. Alors l'histoire, je crois qu'il y a une couverture sur deux, c'est une femme blanche camionnetée par un homme noir. À peu près, c'est le mécanisme. Et à côté, ça n'a rien à voir avec un truc de littérature, c'est une affiche pour dénoncer l'arrivée des GI noirs et les violences qui sont faites sur les Italiennes quand les GI noirs de l'armée américaine arrivent en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quelle est la thématique des fascistes pour remobiliser les fascistes, c'est le cas de le dire, et les troupes italiennes, c'est de dire... Ils viennent violer vos femmes et pour ça, ils vous envoient leur noir. C'est là où on voit comment les fantasmes traversent l'histoire du colonial pour rentrer dans les sociétés occidentales, dans d'autres types de fantasmagories, mais qui reposent sur tout un imaginaire culturel. Là, une image qu'on n'aurait pas forcément regardée de la même manière, mais c'est pour ça que j'aime bien l'amener Joséphine Baker après un certain temps dessus, qui deviendra également la pub, si vous vous rappelez bien, de Coco Chanel, avec Vanessa Paradis dans la cage, il y a quelques années, juste pour rappel pour tout le monde. Mais l'image mythique de Joséphine Baker dans la cage du film Zouzou, le petit oiseau qu'on va libérer, dont d'ailleurs Valérie Oka, à la Biennale de 2016, à Bruxelles a pratiquement reconstitué la même chose puisqu'elle met une jeune femme noire nue dans une cage avec un immense phallus et elle laisse la porte ouverte, reprenant la parodie de Josephine Baker en disant que le fantasme de l'homme blanc, c'est de mettre des femmes noires en cage pour pouvoir en abuser quand, ils le veulent. Super travail. Valérie Ocas, c'est elle qui a... Je crois que j'ai son œuvre à la fin, je dois la voir dedans. C'est elle qui nous a inspiré la couverture. Moi, quand j'ai découvert son travail en 2016 à... Oh, je dis ça, mais je vais... Non, je ne l'ai pas. Vous le verrez dans le catalogue. En 2016, j'arrive dans la Biennale à Bruxelles. Bon, il y a 6 artistes africaines qui exposent. Toutes travaillent sur la corporalité, les violences faites au corps des femmes, l'Occident, le rapport. Et elle, elle fait un immense néon et sur le mur, il y a écrit « Est-ce que c'est parce que je suis noir que tu crois que tu peux me baiser ?»
C'est la dernière image, là, regarde.
Vas-y. Oh, tu le connais mieux que moi. Non, vas-y, vas-y, j'y vais. Voilà, c'est ce que vous voyez derrière moi nous a inspiré la couverture, le néon. Ça, ça fait 5 mètres de large, à peu près. Bon, c'est super impressionnant, il faut l'imaginer, hein, c'est tout le mur qui est derrière moi. Quand vous rentrez dans l'expo, vous prenez ça dans la tête. Wow, wow. Et donc à côté, il y avait tout le travail qui est fait en happening avec cette jeune femme qui était totalement dénudée et qui est dans la cage avec un immense phallus avec la porte ouverte et qui était donc le spectacle. Tant vous dire que pouf, ça vous crée un événement quand vous êtes dans l'expo à travailler dessus. Et elle est vraiment sur, je trouve, en termes de terminologie, vraiment sur les fantasmes de ça parce que pourquoi en Aminou on a choisi, et ça fait aussi beaucoup de débats, ce néon blanc. Bon, alors le blanc, pour ceux qui ne comprennent pas, je ne vais pas décrypter pendant 2 heures, quand on parlait de l'Occident, qu'on mettait un néon blanc. Hein, c'est un peu facile à comprendre quand même, même pour les autres directeurs de publication que nous sommes, nous pensons que c'était assez évident. Mais le néon, parce que ça renvoie à cette idée que pour l'Occident, ça a été un immense bordel. C'est comme ça que l'Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, les empires intérieurs sont pensés. Ils sont pensés comme un droit sexuel qui est un droit au nom de la race. Donc comme un immense territoire où il y a un appel sexuel sans aucune limite, sans aucune borne. Et d'ailleurs, l'imaginaire que vous voyez derrière moi va continuer à faire perdurer que même dans l'espace des premières migrations ou des espaces culturels de présence de populations, Josephine Baker, les premiers joueurs de jazz, les premières migrations qui arrivent, l'autre continue à être perçu à travers son corps et à travers une sexualisation, voire une sursexualisation. Vous voyez les peu d'images dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, arrestation par la Légion à gauche, 2 soldats français agressent une femme indochinoise. Ce n'est pas de moi les légendes. Hein. Je dis juste une chose, ce sont les légendes d'époque. Là aussi, on pourrait presque se poser la question de la validité de ces images. Est-ce qu'elles montrent une réalité? Ou est-ce que dans la construction photographique de ceux qui ont fait ces images-là à ce moment-là, a été fabriquée cette mise en scène d'une violence d'une femme qui se refusera à ses garçons? Personnellement, j'en sais rien du tout. Le tropisme et l'erreur, ce serait de penser que ces images nous disent la vérité. Aucune des images que nous voyons depuis le début ne raconte une vérité. Elles ne nous permettent que d'arriver à comprendre comment, derrière ces images, fonctionnait un monde. Et même celle-là, d'être regardée. Ça, c'est un sujet qu'on connaît très très mal, nous. Enfin, on en a entendu parler, mais on ne le connaît pas aussi bien que mes collègues japonais. Alors, le livre sort l'année prochaine aux États-Unis. En fait, ce ne sont pas des traductions des ouvrages. À chaque fois, on repart sur un chantier nouveau. Même si le livre 2 va ressembler beaucoup au livre 1, il y a juste 30 auteurs nouveaux et à peu près 300 images nouvelles aux États-Unis. Et d'autres qui vont disparaître. Mais on est en train de le préparer pour 2023 au Japon. Sachant qu'au Japon, parler d'histoire coloniale, c'est déjà un tabou. Alors, parler de violence et d'histoire coloniale, c'est un deuxième tabou. Mais alors, parler de violence faite aux femmes et à la prostitution dans l'Empire japonais, en Chine, à Taïwan, alors là, je ne vous le raconte même pas. Moi, j'ai des collègues japonais, en gros, ils se demandent s'ils ne vont pas signer sous pseudonyme pour travailler dans le catalogue. Parce que c'est un sujet intimement tabou. Et parce que l'Empire japonais est le seul qui, dans sa législation, a écrit le droit de la domination sur le corps des femmes. C'est-à-dire que tout était réglementé, jusqu'au nombre de passes par jour des jeunes filles. D'accord? Vous êtes sidérés, hein? C'est sidérant. Enfin, le Japon et cette violence intrinsèque. Il faut savoir qu'à Nankin, on estime que le sac de Nankin, c'est 350 000 viols en 6 jours. Donc c'est une histoire qui est très complexe au Japon, mais qui en même temps a quelque chose que là je suis en train de découvrir en ayant travaillé sur le sujet, qui est très intéressant parce qu'il est certainement un des derniers grands tabous de l'histoire au Japon, qui renvoie à toute la complexité du rapport à l'exotisme au corps et à la sexualité qu'ont les Japonais. Dans les mangas aujourd'hui au Japon, et j'en sais quelque chose puisque là on a 2 auteurs qui viennent de nous faire de splendides articles sur les mangas, ça renvoie à toute la... Je veux dire à la fois au traumatisme des Japonais par rapport à une forme de sexualité mythifiée de l'Occident supérieure à celle des Japonais, et de Japonais surhommes comme étant les seuls à être capables de révéler le corps des femmes. Je rappelle qu'en Asie, dans toute l'Asie, notamment au Vietnam, au Laos ou au Cambodge, à l'époque coloniale française, vous aviez des tarifications dans les bordels. Ce ne sont pas les femmes blanches qui sont les plus chères, ce sont les prostituées japonaises. Il y a une sorte d'absolutisme de la prostituée japonaise pureté. Que va renvoyer des films des années 50 américains autour de Geisha, Sayonara, avec John Wayne ou avec Marlon Brando, des films mythiques. Hein. Et ce sont d'ailleurs des films qu'on a tous oubliés, mais ce sont les premiers films qui vont faire exploser le code Hine aux États-Unis sur l'autorisation d'avoir des couples métis à Hollywood. Je rappelle qu'à Hollywood, il est interdit d'avoir un couple métis jusqu'en 1967 au cinéma. D'accord ? Et quand Elia Kazan tourne Pinky, les acteurs ne sont jamais dans la même pièce. Ok ? Non mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'image nous raconte une histoire. Et quand vous vous intéressez à cette histoire, pourquoi ? Parce qu'on va considérer à un moment qu'un couple japonais-américain, c'est pas vraiment un couple homme blanc, femme noire, et puis ça sert les intérêts de l'Amérique par rapport au Japon, de dire qu'il y a une proximité dans les années 50 entre les deux pays politiques. Et on va tolérer des choses qui auraient été intolérables avant. Et en même temps, ça renvoie à un imaginaire que nous, on ne mesure pas pour les Japonais, de l'humiliation absolue. Le film de Brando, Sayonara, quand il sort au Japon, c'est une humiliation absolue pour les Japonais. C'est de dire, et en plus on prend vos femmes. Et elles sont heureuses. Vous imaginez dans la culture japonaise de l'hyper-ego ce que ça pouvait signifier. Donc travailler sur ces images, sur ce type d'image. Il me reste une minute. Ok. On va finir par la mythologie Black Panthers. Parce que si vous vous souvenez, l'affiche du film Black Panthers qui est sorti il y a un an et demi devait reprendre l'idée du fauteuil. Alors, pour ceux qui ont une grande culture cinématographique française, ce n'est pas le fauteuil d'Emmanuel, ni de Emmanuel Black. J'ai eu un Emmanuel Black. C'est-à-dire qu'il a fait 4,5 millions d'entrées en France dans les salles de cinéma. C'est l'époque où il y avait encore des salles de cinéma qui présentaient des pornos. Et ça, c'est l'image mythique des Black Panthers. Donc vous avez ce combattant type avec le béret, pas basque mais béarnais, le symbole avec l'arme à feu et à côté les éléments stigmatisants et symbolisants à la fois à l'Afrique et une vision classique, et la version femme qui a été faite un an plus tard autour des Black Panthers, sur lesquels Durper m'a fait un splendide texte là, pour l'édition américaine, puisque les jeunes femmes se sentaient du mouvement Black Panthers un peu oubliées par la dialectique, en sachant que si la première a fait l'objet de dizaines de milliers d'exemplaires en tirage, la seconde n'a jamais été sortie en affiche par le mouvement Black Panther. Rappelez-vous ce que disait Angela Davis. Nos frères étaient les premiers à souhaiter que nous restions dans nos cuisines et allongés dans nos chambres. Le premier combat qui était le nôtre, c'était auprès de nos frères. Qui est cité dans le livre. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais terminer par la grande révolution américaine. Vous et moi, vous ne l'auriez pas regardé comme ça avant, 1971. Parce que c'est aussi une révolution, la sexualité. Le jour où le magazine par excellence du suprémacisme blanc et de la beauté blanche met une jeune femme en couverture de Playboy, l'Amérique n'est plus la même. En 71, cette couverture sort. Elle ne fait pas scandale. Elle ne fait pas scandale parce que 4 ans avant, il y a déjà eu un film qui s'appelle « Devine qui vient dîner ». Il y a eu la fin, avec les lois Loving, de l'interdiction des mariages interraciaux aux États-Unis. Il y a dans la culture américaine les premiers films de la Blaxploitation qui arrivent. Il y a toute cette culture qui va d'un seul coup complètement inverser tous les fantasmes et les interdits des corps noirs, des hommes noirs avec des femmes blanches. Et la première scène de ce film, dont j'oublie toujours le nom, mais ça va me revenir, où on voit les policiers qui débarquent, on voit un homme noir en train de faire l'amour avec une femme blanche, et lui, c'est tout de suite ce qui se passe, il saute par la fenêtre pour éviter de se faire arrêter par la police. C'est la première scène d'un film de 70 de la Blaxploitation. C'est la fin de la domination blanche. Et voilà. Et j'ai terminé. Voilà, donc, quel a été ce projet que j'ai essayé de brosser, vous l'avez bien compris, à travers quelques petites touches, parce qu'il est, dans sa complexité, beaucoup plus large, dans ce qu'il essaye d'amener jusqu'au présent et aux héritages contemporains. Sort dans un mois un ouvrage au CNRS édition que de texte. Oh, super, on ne va même plus avoir de polémique. On va pouvoir faire avec 35 nouvelles contributions. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chercheurs n'avaient pas pu publier leurs contributions entières, mais juste des textes très courts, notamment Yvan, qui nous a proposé un très très bon texte dessus. Et donc c'est la continuité du travail qu'on a fait maintenant d'aller travailler en profondeur certains sujets. L'édition américaine, c'est pour l'année prochaine. Dans 2 ans, l'édition allemande. Dans 3 ans, l'édition japonaise. Et se prépare dès maintenant l'idée de 3 films qui vont s'inspirer du livre, raconter en fait 6 siècles d'histoire à travers les 3 temps, fascination, domination et libération, où là, dans le dernier film, le cinéma sera extrêmement présent, la construction cynique. Pourquoi ? Parce qu'on considère que là aussi, ce qu'on n'a pas pu montrer à travers ce film assez, à ce livre assez, c'est toute la partie du cinéma. Et le cinéma est certainement... l'espace, en sachant que le film pour nous qui raconte d'une manière mythique tout l'héritage de ces 6 siècles et qui lance le temps du cinéma, c'est King Kong. Quelle est la passion de King Kong ? La femme blonde. Et la splendide scène en haut des 2 phallus, ah ouais, c'est l'affiche. C'est des heures de conférence sur un tel sujet, mais ça renvoie justement à une réflexion de regarder justement ce récit, ces histoires, se passer à l'aune d'une autre grille de lecture sexuelle, raciale, de domination, dont les images sont certainement un des outils de décodage les plus intéressants qui soient.
Très bien.